Bonjour à tous. Ça va, vous m'entendez ? Bon. J'ai intitulé ce message « Beaucoup de premiers seront les derniers ». Et on va parler ce matin de nos motivations pour le service. Quelles sont nos motivations ? Mais je voudrais commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier pour ce message que tu as mis sur mon cœur. Et je veux vraiment te prier pour que tu puisses ouvrir le cœur de chacun, pour que chacun puisse recevoir ce que toi tu as à leur dire. Que mes paroles s'envolent, mais que les tiennes restent, et qu'elles fassent germer ce que tu veux, qui germe dans le cœur de chacun. Seigneur, on a besoin de toi ce matin. On a besoin d'être transformé par ta grâce. Amen. Bien souvent, quand on parle de service, on parle de quelque chose d'assez rébarbatif, comme une corvée. Quelque chose qu'il faut faire. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entendre ou de penser « Ouais, cette année, je vais encore démonter la sono après le culte de la pastorale. Cette année, je vais encore faire la banque alimentaire. Cette année, je vais encore devoir rempiler pour être moniteur de l'école du dimanche. Cette année, c'est encore moi qui vais devoir remettre les chaises après le culte. De toute façon, si je ne le fais pas, qui d'autre le fera ? » Et si vous avez jamais entendu quelqu'un dire ça, eh bien je vous conseille de vous rapprocher de moi quand il suffit de demander des volontaires. Parce que bien souvent, je traîne la patte pour aider. Et si on est honnête, on a tous, bien trop souvent, une tendance à considérer le service comme une corvée. Alors, quelle devrait être notre attitude pour le service ? La Bible nous dit que ce qui est important, premièrement, c'est d'être trouvé fidèle. On peut lire dans la parabole des mines, c'est une histoire qui raconte qu'un homme important qui doit s'en aller et il donne à chacun de ses trois serviteurs une pièce d'argent. Il leur demande de faire fructifier cette pièce d'argent. Et quand il revient, le premier lui dit « Écoute, ta pièce d'argent, elle t'en a ramené 10, le deuxième, elle t'en a ramené 5, et le troisième dit « Écoute, moi j'ai eu un peu peur et puis je l'ai caché. » Et cet homme important dit au premier et au deuxième « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai de plus grandes. » Deuxième chose, l'amour. Il y a à peu près un mois, Anne-Laure nous a parlé de ce 5-1 égale 0. Ce 5-1 égale 0, c'est la traduction arithmétique de 1 Corinthiens au chapitre 13 et les versets 1 à 3. Si je parle la langue des hommes, et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Je peux faire toutes ces choses-là. S'il me manque un ingrédient, l'amour, c'est du vent. Ça ne sert à rien. Je fais du bruit, uniquement du bruit. Et je vous propose maintenant qu'on puisse se plonger ensemble dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, qui est une parabole qui est comme un test de notre motivation, un test de notre motivation pour le service. Comment discerner si ma motivation est juste ? On trouve cette parabole dans Matthieu au chapitre 20 et les versets 1 à 16. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient, avec eux, de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée. Puis, il les envoie dans sa vigne. Vers 9h du matin, il sort de nouveau et en aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché, sans rien faire. Il leur dit « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne, et je vous paierai correctement. » Et ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3h de l'après-midi, et à chaque fois, il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5h du soir, il en trouve encore d'autres sur la place et leur dit « Mais pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire ? C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi, allez travailler dans ma vigne. » Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers. » Les ouvriers embauchés à 5h du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. « Ceux-là sont arrivés les derniers, » disent-ils. « Ils n'ont travaillé qu'une heure et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. » Mais le maître répond à l'un d'eux, « Mon ami, » dit-il, « je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous nous étions mis d'accord ? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux ? Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon ? Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. » Ça, c'est un passage qui est assez difficile. Surtout s'il y a ce côté gilet jaune qui sommeille en nous. Mais essayons de nous mettre à la place de ces ouvriers. Il y a 5 groupes de travailleurs. Alors on voit qu'ils sont embauchés à différentes heures, 6h, 9h, midi, 15h, 17h. On est sur une journée de 18h. Et puis il y a comme une sorte de progression dans la difficulté. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans la vigne. Moi j'ai eu l'occasion de faire les sagates. En gros, on devait couper les mauvais sarments. Et c'est vrai que le matin, il fait bon, on est à la fraîche, on est avec les copains, ça se passe bien, l'ambiance est conviviale. Mais au fur et à mesure de la journée, avec le soleil qui commence à arriver à 9h, on est en train d'être un petit peu accablé par le poids du dos, en train de passer d'une vigne à l'autre. Et puis ça commence à être beaucoup plus difficile. Donc il y a une progression de difficulté en fonction de l'embauche de ces ouvriers qui arrivent à différentes heures. Et au début, on voit le maître de la vigne qui se met d'accord avec les ouvriers pour un salaire. Il y a un contrat de travail oral. On lit « Je vous donnerai ce qui est juste ». Et puis imperceptiblement et au fur et à mesure de la parabole, on change de logique. On n'est plus dans une logique économique avec un contrat de travail, avec une liste de tâches bien précises qui correspondent à un salaire. Il y a un certain flou qui commence à s'installer sur les intentions du maître de la vigne. Plus de contrat, mais de la confiance. Et le propriétaire du vignoble donne l'instruction à son administrateur de payer les ouvriers, les premiers en dernier et les derniers en premier. Si Jésus avait voulu illustrer que finalement les premiers valent autant que les derniers, il aurait payé les premiers en premier, il aurait payé les derniers en dernier, et finalement chacun serait rentré chez soi. Les premiers n'auraient jamais su que les derniers auraient eux aussi eu touché une pièce d'argent, et tout le monde était content, il n'y avait pas de problème. Une parabole, c'est une histoire qui n'a pas existé, donc elle est là pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Et donc là, ce que Dieu veut qu'on comprenne, ce n'est pas ça. Là, on voit bien que le maître spécifie à l'intendant de payer les derniers en premier. Donc on voit qu'il y a ce groupe de 6 heures où il y a un contrat oral avec un engagement sur un salaire. Ensuite, on voit qu'il y a les autres groupes, 9 heures, midi, 15 heures, où là, il y a une promesse, je vous donnerai ce qui est juste. Et puis, il y a un dernier groupe, celui de 17 heures, où là, ben, ils sont sur la place, c'est quasiment la fin, et puis ils viennent. Il y a cette idée de confiance. Alors, les derniers, les ouvriers de la dernière heure qui ont bossé qu'une heure dans la vigne, ils devaient probablement, sachant qu'ils savent que le salaire classique à cette époque-là, c'est une pièce d'argent pour une journée de travail, ils disent « bon, ben moi j'ai bossé une heure, sur 12 heures, c'est normal que je touche un 12e de pièce d'argent ». Et puis là, d'un coup, on leur donne une pièce d'argent dans la main. Vous imaginez leur sourire ? Ils disaient « moi ce soir, je vais juste ramener peut-être un bol de soupe à ma famille, mais là, je vais ramener tout ce qu'il faut pour la journée qui suit ». Alors du coup, les mecs, ils sont dans la file derrière, ils sont en train de se dire « attends, le mec là, est-ce qu'il vient de toucher une pièce d'argent pour une heure ?» Attends, moi j'ai bossé 3 heures, ok, pas mal. Et puis les mecs de derrière qui ont fait 6 heures, eux, c'est 6 pièces d'argent. Et puis les gars qui ont bossé toute la journée, 12 heures, ils disent waouh, moi aujourd'hui je vais palper 12 pièces d'argent. Et puis chacun commence à raisonner. On ne comprend pas pourquoi le maître de la vigne a décidé de payer les derniers en premier. Et on ne comprend pas non plus pourquoi il a décidé de les payer autant que les premiers, parce que ce type de comportement, ça incite à la paresse. On dit que ce maître de la vigne, il a dû louper ses cours de management. On se dit que ce gars-là, enfin, il n'a rien compris à cette idée d'investisseur, à cette idée de comment bien gérer, d'être un bon gestionnaire, parce qu'il aurait dû tout simplement les payer au prorata des heures qui sont travaillées. Enfin, ça me paraît assez logique. Mais on lit que cette parabole nous explique, comme on lit au début du verset tout à l'heure, « Voici à quoi ressemble le royaume des cieux ». Le royaume des cieux ne fonctionne pas sur une base rémunératrice. La grâce divine n'est pas distribuée proportionnellement selon le mérite de chacun. Clément ? La grâce, elle est injuste précisément parce qu'elle ne tient pas compte de la justice. Ça peut choquer cette phrase, mais la grâce ne tient pas compte de la justice. Elle va au-delà de la justice. On voit dans cette parabole que c'est ceux qui la méritent le moins qui finalement en bénéficient le plus. Et donc là, on a ces ouvriers qui se plaignent et qui accusent le maître. Il n'accuse pas d'avoir menti, de ne pas leur avoir donné ce qui a été promis, mais il l'accuse d'être trop généreux avec les autres, selon ce qu'eux estiment qu'ils ne méritent pas. Et c'est la réaction de ces premiers ouvriers qui fait que finalement, ils deviennent les derniers. De l'orgueil, de la cupidité et de la jalousie. Et puis, ils rappellent au maître de la vigne, au cas où il aurait oublié, que eux, ils se sont défoncés toute la journée. On lit au verset 12, « Nous qui avons supporté le poids du jour et de la grosse chaleur. » Et c'est un petit peu ce que Pierre revendique à la fin du chapitre 19, qui est juste avant la parabole qu'on vient de lire maintenant. Matthieu, au chapitre 19, versets 27 et 30. Alors Pierre prit la parole et lui dit, « Et nous, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous ?» Et Jésus leur dit, je saute un petit peu, « Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leur terre, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers. Et beaucoup de ceux qui sont maintenant parmi les derniers seront les premiers. » Nos réactions dans ce genre de situation nous permettent d'évaluer quelles sont nos motivations. Nos motivations pour le service de Dieu. Moi, je mérite mieux que lui. Et on pourrait comprendre ce verset 15. Ce verset 15 qui dit « Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon ? Par serais-tu jaloux parce que je suis bon ?» La récompense qui a été attribuée aux autres a fait naître en eux un sentiment de jalousie. Et cette jalousie les a empêchés de goûter à la bonté du maître. La jalousie, c'est quelque chose qui rentre en nous et qui nous empêche de voir les choses telles que Dieu voudrait qu'on les voie. Et ils ne pouvaient plus apprécier leur salaire à cause de cette jalousie qui les bouffait. Et bien souvent, les longues heures qu'on a passées à travailler dans la vigne modifient notre appréciation de la grâce. Soit nous apprécions de plus en plus sa grâce, on est de plus en plus reconnaissant, soit on va laisser une certaine amertume se développer par rapport à ce qu'ils devraient faire et qu'ils ne font pas. Et là, je veux m'adresser maintenant tout de suite particulièrement aux chrétiens de longue date, à ceux qui ont travaillé dans la vigne depuis longtemps. Et j'ose de plus en plus me mettre dans cette case-là, mais toutes ces années que vous avez passées, que nous avons passées à travailler pour le Seigneur, peuvent modifier notre appréciation de la grâce. Notre service peut nous éloigner du maître. Et on commence à raisonner. Et c'est fou comment on passe tellement rapidement d'un salut qui est absolument gracieux à un service qui est extrêmement coûteux. Et la grâce de Dieu qui nous a régénérés, finalement, disparaît petit à petit de nos motivations. Et le problème, et ça c'est triste, bien dans nos églises, c'est qu'on peut servir sans suivre Dieu. Le fait de servir, ce n'est pas une garantie de suivre Dieu. On peut servir sans suivre. Et c'est ce qui fait que beaucoup de premiers seront les derniers. Je ne vous cache pas que quand je lis cette parabole, il y a une partie de moi qui se dit que finalement, si j'étais ces ouvriers, moi le lendemain, j'irais bosser à 17h. Franchement, je touche la même paye que le gars qui s'est levé à 6h du matin et je me lève à 17h pour une heure de travail. C'est quoi l'avantage de venir à 6h du matin? Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais enlever aux ouvriers de la première heure. C'est qu'ils auront servi un bon maître plus longtemps. Ils auront servi un bon maître plus longtemps. Notre motivation devrait être de nous rappeler que nous servons parce que nous avons la joie de servir un maître qui est bon. Ce qui compte, c'est cet amour pour le Père qui nous fait réaliser qu'il est bon de servir ce maître-là qui fait preuve de générosité. Et notre service, ce n'est pas un don qu'on fait à Dieu pour mériter quoi que ce soit. Il n'y a rien de méritoire. Dieu n'a pas besoin de notre aide, mais il souhaite, dans son amour, nous faire participer à sa grâce. Je vous propose de regarder cette photo. Alors, on voit ma fille qui me file un coup de main à laver la voiture. Alors, on ne le voit peut-être pas, mais elle a un beau sourire. Elle était rayonnante de joie. Non pas que j'avais besoin absolument de son aide pour laver la voiture, sans quoi j'aurais jamais été dans les temps, mais elle a choisi par amour pour moi, par amour pour le Père, de venir me filer un coup de main. Sa motivation pour le service, c'était l'amour. 5 moins 1 égale 0. Si on enlève cet ingrédient de l'amour, elle aurait sûrement plus du tout eu envie d'être là à me filer un coup de main. Ou alors, en tout cas, elle ne l'aurait pas fait avec le sourire. 5 moins 1 égale 0. On cherche tous un projet à suivre. Plus ou moins grand, ça peut être faire partie du spectacle de fin d'année de Noël. Ça peut être faire partie d'un groupe de musique, comme le groupe de Lucia. Ça peut être diriger une entreprise. Ça peut être changer les mentalités par rapport à l'environnement. On a tous un projet qu'on veut suivre. Mais Dieu choisit de nous faire partager, de nous faire participer à son projet suprême, son plan de sauvetage pour l'humanité, qui aura des répercussions dans l'éternité, pour que nous puissions demeurer avec lui dans sa présence. Si vous êtes déjà allé en Israël, vous avez probablement vu le mémorial qu'il y a, où il y a tous les noms des personnes qui ont aidé les Juifs pendant l'Holocauste. Et leurs noms sont inscrits sur des plaques. Et de la même manière, nos noms sont inscrits dans le ciel si nous aussi, nous prenons la décision de participer à son plan de grâce. Alors faisons-le avec la joie dans le cœur, de travailler pour le plus beau des projets, pour un bon maître. Je vous propose maintenant de faire rapidement un saut vers un autre passage qui nous parle de la motivation pour le service. C'est un passage qu'on peut trouver dans Luc au chapitre 10 et les versets 38 et 42. En gros, il y a Jésus qui est reçu par Marthe et Marie, et il est reçu avec ceux qui sont avec lui. Et c'est pas très clair sur ce petit passage, mais on voit au début du chapitre 10 de Luc que Jésus a choisi 72 disciples. Alors, on n'est pas sûr que ces 72 disciples soient aussi présents chez Marie, mais en tout cas, on peut supposer qu'il y a quand même du monde, que ce n'est pas juste une invitation où ils sont deux ou trois. Et quand on reçoit du monde, c'est toujours un petit peu stressant. Et là, il y a Marthe qui commence un petit peu à faire du bruit avec les casseroles. Mais elle ne me voit pas, là, Marie. Elle est au fond, là, elle est au pied de Jésus, et puis moi, je suis en train de me taper tout ça, là. Alors du coup, il y a Marthe qui commence à faire un petit peu plus de bruit, à agiter les verres, à faire un petit peu sonner tout ça, mais elle ne voit rien. Et puis là, il y a la sauce qui lui monte au nez. Et puis au bout d'un moment, elle explose. Et à la place d'aller chuchoter discrètement à l'oreille de Marie, « Écoute Marie, tu pourrais venir me filer un petit coup de main, là, je suis un petit peu sous l'eau, avec tout le monde qu'il y a, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ce serait bienvenu. » Elle choisit d'aller parler à Jésus. Et elle lui dit, « Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Et souvent, quand on est en train de rendre service, peu importe quel service, que ce soit la cuisine, le ménage ou autre, quand on commence à être sous pression, quand on est en retard ou quand les invités arrivent un petit peu plus en avance, on commence à avoir une tendance naturelle à projeter notre stress sur les autres. En tout cas, moi, le matin, surtout pour venir à l'église, c'est souvent le cas. On projette notre stress sur l'autre. Surtout quand on voit que l'autre, il prend un petit peu les choses à la cool. Et qu'il a moins la même notion de l'horaire. Et le pire, c'est quand l'autre s'en tape royalement. On ne supporte pas que les autres puissent vivre autre chose que ce stress qu'on est en train de vivre. Et il faut donc que je contamine mon entourage avec mon angoisse. Et ce qui est déroutant dans ce passage, c'est la réponse de Jésus. Jésus lui dit « Marthe, Marthe ». Il lui répète deux fois quand même, parce que là, elle doit être tellement à un niveau d'anxiété que finalement, elle n'a peut-être pas entendu la première fois. « Marthe, Marthe ». Tu t'agites et tu t'inquiètes pour peu de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. 5 moins 1 égale 0. Là, Jésus n'est pas en train de reprocher à Marthe de s'occuper des tâches domestiques. Il est en train de lui expliquer, c'est quoi tes priorités ? Il questionne ses motivations pour le service. En fait, on peut servir à la cuisine dans la bonne attitude si c'est notre attachement au Seigneur qui est notre première source de motivation. On a tous besoin d'être transformés. Pas juste en surface, mais au plus profond de notre cœur, à nos motivations, à ce qui nous anime, à ce qui nous fait vibrer. On peut lire dans Romains 12, au verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Notre tendance naturelle, c'est de nous montrer jaloux pour ceux qui se réjouissent, indifférents envers ceux qui pleurent. Et les fois où on va se réjouir, ça va être les fois où il y a quelque chose de vraiment profitable pour nous. On a cette attitude égocentrique. J'ai cette attitude égocentrique. Et ce n'est pas nouveau ce type d'attitude, parce que l'apôtre Paul fait la même constatation chez ses collègues en Philippiens au chapitre 2, versets 19 à 21. Or, j'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée, afin que moi aussi j'ai bon courage quand j'aurai connu l'état de vos affaires. Car je n'ai personne qui soit animé d'un même sentiment avec moi pour avoir une sincère sollicitude à l'égard de ce qui vous concerne. Parce que tous cherchent leur propre intérêt et non pas ceux de Jésus-Christ. Nous avons compris la grâce de Dieu et nous y demeurons lorsqu'on pourra se réjouir que celui qui a travaillé moins reçoive autant que moi qui ai travaillé plus. Notre service devient une conséquence logique de notre compréhension de la grâce de Dieu. Ce n'est pas pour une gloire personnelle, c'est parce qu'on a compris ce que c'est que la gloire de Dieu. Alors laissons-nous transformer. Ne soyons pas centrés sur nous-mêmes et réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Il y a encore un détail qu'il est important de noter. J'arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. Pourquoi le maître de la vigne revient plusieurs fois dans la journée sur la place du village ? Est-ce que vous pensez qu'il a mal estimé la quantité de boulot et qu'il se dit « Attends, là, on arrive vers la fin de la journée et puis c'est vrai que je suis peut-être un peu juste, il faudrait que j'aille embaucher un peu plus de personnes. » Le texte nous dit que sa seule motivation, c'est de ne pas laisser des ouvriers sur la place sans rien faire. Dieu ne veut pas nous laisser sans espoir, sans rien faire. Dieu est à ta recherche. Dieu te cherche, où que tu sois. Il viendra. Il viendra à 6 heures. Il viendra à 9 heures. Il viendra à midi, à 15 heures. Il viendra jusqu'à la dernière heure. Vous vous rappelez ce brigand sur la croix ? Le mec, il a fait des conneries toute sa vie. Il a eu une vie de débauche, c'est un criminel. À la dernière heure sur la croix, il se retourne vers Jésus et lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et nous, là, dans cette situation, on aurait eu une partie de nous qui a envie de dire « Eh mec, tu crois pas que c'est un petit peu tard là ? Fallait y penser avant. » Mais Jésus le regarde et avec ses yeux d'amour lui dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Sa compassion s'étend jusqu'à la dernière heure. Et là, j'approche vraiment de la fin. Vous en pensez quoi de cette parabole ? Est-ce que ça suscite en vous un peu d'indignation ? Une sorte d'injustice ? Mais si on est honnête, c'est parce qu'on a une tendance à s'identifier aux ouvriers de la première heure. Mais est-ce qu'on est vraiment des ouvriers de la première heure ? Est-ce qu'on a vécu les souffrances de ceux qui sont dans la vigne depuis 6 heures du matin ? Paul, dans 2 Corinthiens au chapitre 11, versets 23 à 27, on lit « qu'il s'est fait fouetter, battre à mort plusieurs fois, lapider, il a failli mourir dans un naufrage plusieurs fois, il a connu la misère, il a connu la faim. » Waouh ! Marie Durand, vous ne connaissez peut-être pas. Bravo, vous m'impressionnez. Marie Durand, donc, qui a été une femme qui a refusé de renoncer à sa foi. Elle a passé 38 ans dans cette tour, la tour de Constance, à Aigues-Mortes. Elle avait 18 ans et elle venait de se marier quand elle était emprisonnée. Et on peut encore voir aujourd'hui une inscription « Résister » qui est dans cette tour. Ça, c'est des souffrances. Paul, Marie Durand, les chrétiens persécutés, ils recevront tous le salaire d'une journée de travail qui représente le salut qui nous est donné. Et moi, j'ai pas souffert un dixième des souffrances de ces chrétiens persécutés, de Marie Durand et de Paul, mais j'aurai cette même récompense, le salaire, qui est le salut qui m'est donné. Et vous savez quoi ? Ben, c'est pas juste. C'est pas juste. Mais dans le royaume des cieux, il n'est pas question de justice. Il est question de grâce. Dans le royaume des cieux, il est question de grâce. Alors arrêtons de revendiquer l'heure à laquelle on a commencé à travailler dans la vigne. Parce que tout ça, ça nous conduit à l'amertume. Ça nous conduit à raisonner, ça nous conduit à calculer ce que l'autre a fait, ce que moi je mérite. Et réjouissons-nous qu'on aura tous le même salaire à la fin. Celui qui a travaillé plus, comme celui qui a travaillé moins. Maintenant, je vais demander aux musiciens de s'approcher pendant que je termine. Ces deux passages qu'on vient de prendre nous conduisent à réaliser que ce qui compte vraiment, c'est nos motivations pour le service. Ce n'est pas juste de servir pour servir. Ce n'est pas parce qu'on franchit la porte de l'église qu'on va venir ici, qu'on va devoir servir, que c'est une consigne. On a beau être dans la vigne ou dans l'église, on a beau être entouré de plein de gens qui servent, on a beau faire une chose qui est bonne, un service qui est utile, ce qui compte, c'est notre motivation. Ce qui compte, c'est ce qui nous anime au plus profond de notre cœur. Ce qui compte, c'est notre motivation pour le service. Ce qui compte, on l'a dit tout à l'heure, 5 moins 1 égale 0, ce qui compte, c'est notre amour pour Dieu. Et on en revient au plus grand des commandements qui nous a été laissé. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Dieu, ce matin, nous regarde avec ses yeux qui transpercent. Il nous regarde avec ses yeux qui traversent cette carapace qui est dure, plus dure chez les uns que chez les autres. Il nous regarde au travers de notre masque. Et il nous pose cette question ce matin. Quelles sont tes motivations pour le service ? C'est quoi qui t'anime ? Est-ce que c'est une gloire personnelle ? Ou est-ce que c'est l'amour du Père ? Je vous propose qu'on puisse avoir un petit moment d'introspection et de prière. Et qu'on puisse faire nôtre cette réflexion que le roi David a eue. Qu'on peut lire dans le psaume 139 et le verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On va passer un petit moment à réfléchir, mais juste avant, je voudrais prier. Seigneur mon Dieu, tu veux nous parler ce matin. Tu veux questionner ses motivations. Tu veux questionner ce qui nous fait vibrer, pourquoi on est là, pourquoi on te sert. Est-ce que c'est par une ambition personnelle ? Ou c'est parce qu'on t'aime, toi ? Parce que tu nous as fait grâce, parce que tu veux nous faire participer à cette grâce, à ce projet suprême. Seigneur, on veut te dire ce matin que c'est parce qu'on a envie de t'aimer, toi, le Père. Seigneur, change notre cœur qui est malade. Renouvelle nos pensées. Amen.
Sous-titrage Société Radio-Canada. Ouais, merci pour ces moments et c'est un plaisir quand même. J'espère qu'on va prendre du plaisir aussi à finir ce moment par la Sainte-Seine. On a chanté ces louanges, on a chanté vraiment ce que le Seigneur a fait de nous avec ce caractère d'être totalement libéré, d'être totalement face à face. Et ben, je vais inviter les quatre personnes aussi à s'approcher pour la distribution du pain et du vin. Et je voudrais juste revenir par rapport à ce que Matthieu nous a partagé. C'est étonnant que dans cette vigne, on ne sait pas pourquoi les ouvriers étaient embauchés. Et à plusieurs reprises, c'est vrai, ouais, toi aussi, venez dans ma vigne. Et c'est ça le point crucial. Ce n'est pas forcément pour aller couper les mauvais sarments, ce n'est pas pour aller vendanger. Non, le but, l'important, c'est d'être dans la vigne. Et c'est vraiment touchant de voir comment lui-même, le Seigneur, nous a ouvert les portes pour venir dans cette vigne. Et juste, je voudrais partager avec vous, par rapport aussi à la Sainte-Seine, c'est dans Hébreux 10, verset 5, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Et alors il dit « Alors j'ai dit, voici je viens. » Oui, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Oui, on a l'impression que peut-être il faut aller dans la vigne, il faut nous-mêmes, pour faire un sacrifice. Non, pour faire, ô Dieu, ta volonté, parce que c'est lui qui nous invite. Et là, ce n'est pas le même choix, finalement, que nous avons fait, que Christ lui-même a fait. Parce qu'un peu plus loin, il est dit, donc, voici... Il répète l'auteur, et voici, je viens pour faire ta volonté. Et maintenant, à partir de cette volonté, à partir de l'obéissance de Christ à la croix, il a obéi. Il a obéi à cette invitation, juste pour nous donner, nous, maintenant, à notre tour, cet libre accès. Et verset 19, ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Ouais, le maître, hein, le maître de la vigne. Donc approchons-nous, entrons dans cette vigne avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ouais, on est libéré, on est lavé. On est adopté, on est dans cette vigne, on est dans cette présence. Alors, quel bonheur de pouvoir partager ainsi ce pain et ce vin, ouais, qui sont ces symboles de cette œuvre de Christ, ouais, qui nous a donné cet accès. Et comment dire non ? Non, je ne veux pas aller dans ta vigne. Non, ce n'est pas possible. Vraiment, voilà, recueillons-nous. Laissons-nous remplir de cette grâce, remplir de cette liberté du Saint-Esprit pour que nous prenions vraiment ce repas, ce pain et ce vin comme quelque chose qui vient nous ancrer toujours plus. C'est le Seigneur qui a voulu que chaque fois qu'on soit là, on se souvienne de lui. Mais oui, on se souvient de cette invitation, on se souvient de cette œuvre à la croix. Je vais demander à Déborah de prier pour le pain et Rebecca pour le...
Oui, Père éternel, c'est vraiment une joie d'être là devant cette table, devant ces symboles qui nous rappellent que tu as déchiré le ciel, tu as envoyé ton Fils qui nous donne un accès à toi, un accès entier, total, non pas parce que nous le méritons, mais par pure grâce. Merci, merci vraiment, Père éternel. Béni sois-tu, Christ Jésus, d'être allé jusqu'au bout, d'avoir payé le prix. Merci pour ce symbole du pain qui nous rappelle ton corps livré sur la croix. À toi l'honneur et la gloire, en Christ Jésus. Amen. Amen.
Amen. Seigneur, merci pour ce sang versé. Merci parce que à travers ce sang, tu me donnes la vie et tu me la donnes en abondance, Père. Alors Seigneur, donne-moi de chaque jour de travailler dans cette vigne avec joie, avec ferveur. Et Seigneur, que beaucoup puissent encore rentrer dans cette vigne, Seigneur. Merci parce que tu es patient, tu attends ceux qui arrivent aussi. Et Seigneur, pour chacun, tu veux la vie éternelle. Alors nous te remercions, Seigneur, que nous puissions être ces lumières et ces exemples, Seigneur, de vie en abondance. Gloire à toi, Seigneur. Amen.
Amen.
Ok, merci pour ces bons moments partagés ensemble. La louange, ça a fait du bien, c'était chouette. Mathieu, ça nous a fait du bien aussi, merci beaucoup. Tant encore de partager les annonces avec vous. Avant de partager la liste des annonces chou qui s'allonge, qui est grande comme ça, on va faire l'inverse, on va pas faire des dates d'abord, on va faire des gens d'abord, on va injecter un peu d'humain dans tout ça. Donc allez, on va prendre Daniela au début, parce que j'aime bien son annonce à Daniela. Elle est venue me dire un truc là, j'ai dû demander trois fois pour être sûr que j'avais bien compris. Je lui ai dit, oh, tu le dis toi-même ça. Donc Daniela, je te laisse la parole.
Ok, c'est juste une petite annonce. Donc, comme vous le savez, je travaille en Palestine en ce moment. Je vais repartir dimanche prochain. Donc, je ne vous verrai pas dimanche prochain, mais bien sûr, vous restez dans mon cœur et j'espère de vous revoir bientôt. J'ai quand même une question par rapport à mes chèvres. Vu que notre maison à Crozet sera mise en vente là, à partir de ce mois-ci, je voudrais savoir si vous connaissez quelqu'un qui aurait envie de prendre en pension mes deux chèvres qui s'appellent Heidi et Peter, d'ailleurs. Et il y a un mouton qui est déjà assez vieux. Je ne veux pas les vendre vu que j'ai beaucoup envie de revenir dans la région si jamais à la fin de mon contrat, mais je ne peux pas le savoir. Donc, ça serait en pension pour 6 mois, mais pour que je sache qu'il soit que Heidi et Peter soient dans les bonnes mains. Donc, si jamais il faudrait que je trouve quelqu'un cette semaine, ça serait bien. Voilà. Mais autrement, merci pour tout votre soutien et je suis très reconnaissante de pouvoir être là ce matin. Soyez bénis.
Ok, vous avez compris. J'en profite pour dire, Daniela, tu me dis si t'es pas d'accord, mais Daniela, t'habites où déjà exactement ? À Bethléem maintenant ? À Bethléem, on est d'accord. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si vous allez en Israël ou en Palestine ou ailleurs, dans le coin, n'hésitez pas à prendre contact avec Daniela ou nous demander, vous mettrez en contact. Elle vous fera voir ça un petit peu différemment, peut-être de la manière dont on le voit traditionnellement, je sais pas.
Une belle maison.
Mais je parlais pas de la maison, moi, je parlais de
ce qu'il y a autour. Beaucoup de place, donc vous êtes bienvenus.
Ok, donc voilà, vous êtes les bienvenus là-bas. Mon papa, il est où, Jean-Paul ? Je vois pas. Jean-Paul qui veut nous faire deux annonces.
Alors, la première annonce, il y a 10 jours, on a fait une visite impromptue à Briand-Hélène, à Nice. Alors, vous avez envie de savoir comment ils vont ? Bah, ils vont pareil, mais en un peu plus vieux. C'est-à-dire, non, ils sont dans un superbe appartement sur les Hauts de Nice, avec une terrasse à faire pleurer tout le monde. Dans les pins parasols. Enfin voilà, c'est vraiment superbe. Ils sont très très bien dans un grand immeuble. Ils ont, vous le savez ou pas, mais ils ont réussi à vendre finalement leur appartement de Thoiry, ce qui leur permet de rester dans cette location. Voilà. Ils ont des possibilités de restauration en bas, mais ils sont pas contents parce que ça vient pas de chez Satoris. Mais ça c'est pas nouveau. Enfin voilà, pour vous dire, ils sont fidèles à eux-mêmes. Hélène va mieux que quand elle est partie d'ici, mais elle reste dans son fauteuil, elle ne bouge pas pratiquement, quoi. Mais elle est en bonne forme physique, moi je l'ai trouvée rajeunie, Hélène. Briand, un petit peu pris un coup de vieux, quand même, il parle, je trouve, un peu plus difficilement, mais alors il était enchanté de nous voir, d'avoir des nouvelles de l'Église, il salue vraiment tout le monde, alors même ceux qui ne le connaissent pas, hein, vous êtes inclus dedans. C'est son église, c'est l'église de son cœur. Mais enfin, il y en a aussi deux autres à Nice, il y en a un peu partout, des églises de son cœur. Donc, c'est l'église du cœur de Dieu pour Briand. Donc voilà, il vous salue tous. Briand participe encore à des cultes, mais il dit, c'est le seul endroit où je peux tenir debout, c'est derrière une chaire. C'est vrai qu'à côté de ça, il est un peu branlant quand même, il faut dire ce qu'il est. Alors voilà, donc ce sont quand même de bonnes nouvelles et en tout cas, soyez salués de la part de Briand. Puis la deuxième, c'est parcours baptême, on recommence, ça y est. Enfin, si vous êtes intéressé, venez vite me voir à la fin. On va décider d'une date cette semaine donc, pour le parcours baptême. Enfin, ce n'est pas un concours, hein, pour le parcours baptême. Merci.
Ok, donc parcours baptême, pour ceux qui ne sauraient pas, ce n'est pas forcément un parcours où à la fin il y a un baptême, mais c'est un parcours pour se poser des questions sur la Bible, découvrir la Bible, on aurait pu appeler ça un parcours découverte ou autre chose. Donc allez-y, de 7 à 77 ans, même plus. 107 ans, vous pouvez y aller. On passe aux annonces de la semaine. Clément, merci. Lundi soir, on a le conseil. Pensez au conseil. Il faut penser à notre pasteur et penser à vos anciens aussi. Merci de prier pour nous. Mardi, la réunion de prière à 20h30, la réunion de prière d'église, donc en bas au sous-sol. Jeudi, on reprend la chorale à 20h. Oui, c'est ça, t'es contente. Elle est à fond, Marie-Lou. Donc on reprend la chorale et ça fera plaisir de tous se retrouver. Et si vous voulez démarrer cette saison avec la chorale, c'est le bon moment de vous joindre à nous. Donc, jeudi à 20h. Samedi, le groupe de jeunes. Il va falloir que je change cette photo un jour, hein, pardonnez-moi. Et dimanche prochain, c'est un dimanche spécial, c'est des cultes de témoignages. C'est ce qu'on appelle le cinquième dimanche chez nous. Alors peut-être tu n'es pas habitué, mais simplement il y aura un petit moment de louange et il n'y aura personne qui va parler, qui s'est prévu. Le culte se construira avec les gens qui vont amener leurs témoignages. raconter quelque chose qu'ils ne comprennent pas, quelque chose qui leur fait plaisir, quelque chose qu'ils ont vécu, quelque chose, j'espère, à la gloire de Dieu. Donc ça peut faire peur comme ça, mais venir parler devant, c'est pas si méchant. On ne va pas vous manger à la sortie. Et moi, j'aimerais vous encourager, les enfants qui sont là, à peut-être préparer un petit truc, peut-être venir dire une petite chose, réciter une belle poésie que vous avez appris qui vous fait penser à la gloire de Dieu, à la nature, des choses comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas le droit de parler. Voilà, je voulais juste vous le dire. Ce lundi, ah, je ne vais pas y arriver. Ce lundi, Femme Club à 14h. Merci Clément. On continue un tout petit peu plus loin dans les annonces. Ce dimanche, cet après-midi, on communique juste qu'à Ferney, il y a une exposition qui est faite sur la vie d'Albert Schweitzer qui s'appelle « L'art de vivre ». C'est au temple protestant à Ferney. Donc voilà, jusqu'à 17h si jamais vous voulez aller faire un petit tour là-bas. On continue. Le concert Louise Sepp, s'il te plaît, Clément. Je ne sais plus dans quel ordre on est, mais ce n'est pas grave. Mercredi 2 octobre. On organise ici, enfin pas on organise, on accueille ici, voilà, une tournée du sel qui a pour but de faire connaître l'organisation à travers le témoignage d'un enfant qui a été parrainé, à travers aussi un mini-concert que Louise donnera. Donc ça sera ici mercredi 2 octobre, donc on sait que c'est en semaine, on a mis à 20h un peu plus tôt. C'est 20h-21h30, les enfants pourraient peut-être venir aussi, ceux qui le souhaitent, on essaiera de ne pas terminer trop tard, et je pense que c'est bien adapté pour vous. Donc voilà, mercredi 2 octobre, bloquez la date dans 10 jours. Il me reste à rappeler encore le vote pour le renouvellement de Philippe. C'est l'avant-dernier dimanche pour lequel on peut voter. La boîte bleue au fond, là-bas, permet de voter. Donc ce dimanche, vous pouvez encore voter. Dimanche prochain, avant le culte, vous pouvez encore voter. Et on dépouillera ça et donnera le résultat directement à la sortie du culte dimanche prochain. Donc pensez-y, c'est important qu'une majorité de personnes s'exprime. Je crois que j'en ai fini avec les annonces. Donc, vu que j'en ai fini avec les annonces, je reviens juste sur ce que Mathieu avait montré, cette image de résister. Moi, elle me plaît, là. Donc, résistons cette semaine. Résistons à tout ce que le monde veut importer dans nos vies. Résistons peut-être à notre propre gloire. Et ouvrons nos cœurs à la gloire du bon maître. Bon dimanche.